Voilà, j'ai pu suivre les deux cultes pour lesquels ils ont été animés, donc par Charles, au niveau de la parole, et puis Jérôme. Et je voudrais, dans la continuité de ces messages qui étaient vraiment très édifiants, apporter un complément pour résumer un petit peu ce qu'ils vous ont apporté. Ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont abordé et apporté, hein, c'est la première chose qui m'a interpellé, c'est le fait que nous sommes dans une vision où le Seigneur veut nous utiliser dans cette région, au travers de la parole de Dieu, la parole qui est agissante et puissante, Seigneur. Et qui touche les cœurs, qui nous amène à vraiment le connaître tel qu'il est et tel qu'il veut se révéler à nous. Et donc il y a eu deux messages, hein, qui ont été apportés. C'était d'abord toi, hein, c'est ça? Voilà. Et donc ce message a apporté sur la parole qui touche nos cœurs et qui nous fait connaître vraiment cette vérité qui nous est apportée par le Saint-Esprit pour nous emmener plus loin dans les voies du Seigneur. Ton intitulé, c'était quoi? Je manque un petit peu de repères là sur ma tablette. Je ne sais pas si tu avais donné un titre. Oui. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans tout ce que le Seigneur nous donne, nous sommes vainqueurs. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup apprécié cet enseignement-là, qui nous montre que nous sommes rien sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur. Et quand il nous conduit, eh bien, nous sommes vainqueurs en lui. Et sans lui, nous ne sommes rien parce que nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin d'être conduits par son esprit. Et ce message m'a beaucoup touché. Et qui m'a conduit effectivement à vous parler du sage et de l'insensé. Et tu as pris la parole de je ne sais plus quelle est la. J'ai un trou là. Du passage biblique. Le passage que tu avais pris. Ouais. C'est bête, hein, parce que j'ai plus de notes là. Je suis un petit peu perdu. Ouais, non, c'était le premier passage que tu avais pris. C'était dans un psaume. Voilà. En tout cas, dans ce psaume, bon, je suis désolé, j'ai plus les références du psaume, mais dans le psaume, il était question justement 53. Voilà. Voilà. Et dans ce voilà. Ouais. Et ce psaume, justement, il nous montre combien le Seigneur est à l'œuvre pour nous parler, pour nous aider à venir dans sa parole. Et ce matin, je voudrais effectivement concrétiser un petit peu les deux messages qui ont été donnés, l'autre par Jérôme, le sage et l'insensé. Le sage et l'insensé montrent que. Décidément, là, il n'y a plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mieux en veille. Le sage et l'insensé, c'est que le Seigneur nous montre que nous devons être sages en lui. Sinon, nous sommes insensés. Là, je vous présente la vision de l'histoire sous l'angle de l'humanisme. Vous savez que. L'être humain, quand il n'est pas en contact avec Dieu, eh bien, il cherche dans l'homme, il cherche dans l'humanisme, dans l'humanité, eh bien, ses références. Et l'homme devient la mesure de toute chose. C'est-à-dire qu'en fait, il devient Dieu, quelque part, hein. puisqu'il ne peut plus se référer à quelque chose qui le dépasse. Donc il se centre sur lui. Et c'est un peu ce que nous vivons dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est cela que j'aimerais aborder ce matin, simplement pour vous montrer dans quel sens nous allons et comment nous avons besoin de nous redresser, nous ressaisir en tant qu'Église. L'humanisme, c'est le fait de mettre l'homme au sommet d'une pyramide, hein, qui est Dieu, qui est universaliste. Cet humanisme, il a commencé à la tour de Babel. À la tour de Babel, vous savez que les hommes sur la terre, à l'époque, ils parlaient une seule langue, et ils se sont mis d'accord pour essayer d'atteindre Dieu. Voilà. Donc, cette idée d'atteindre Dieu, d'atteindre la divinité, de se surpasser, de se dépasser, est universelle d'une part, et ça a commencé dès le départ, hein, dès le départ de la création de l'humanité. Et donc nous voyons dans la Bible que l'homme s'est réuni, enfin sont mis ensemble pour essayer de monter vers le ciel et d'atteindre Dieu, comme si c'était possible de l'atteindre. Mais ça, c'est l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, quand il n'est pas en communion avec Dieu, quand il n'a pas de relation avec Dieu, eh bien, il le cherche de manière extérieure à lui, et donc au travers de cette tour de Babel. C'est ses propres forces qui le poussent à être Dieu, à devenir Dieu lui-même. Et Dieu les a frappés, vous rappelez, et les a dispersés dans le monde entier. Et c'est là qu'on a le début bien, des langues différentes, où les hommes et les femmes ne se comprennent plus. On a aussi les races différentes, etc. Bon, c'est le début de cette dispersion de l'humanité sur la terre entière. Et donc ça, c'était au début. Ensuite, après, Dieu il est intervenu, hein, il y a eu le déluge. Et puis ensuite, après, il y a eu à nouveau Noé qui est venu et qui a recréé, à partir d'une famille, eh bien, une nouvelle humanité avec ses trois fils. Et enfin, nous allons tout de suite arriver à Jésus, hein, Jésus qui est le Logos incarné, la parole. C'est la parole incarnée, c'est celui qui est venu de la part du Père, hein, qui a vu que les hommes ne s'en sortaient pas tout seuls, qu'il fallait un Messie, qu'il fallait un Sauveur. Et donc Jésus s'est présenté à son Père, il a dit, voilà, je suis prêt à venir pour sauver l'humanité des péchés, parce que Dieu a créé l'homme libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres de faire des choix. Et cette liberté, elle amène des conséquences suite aux choix que nous faisons. Et nous voyons cette histoire dès la Genèse. Hein, Adam et Ève qui étaient dans le jardin, eh bien, ils avaient le choix entre l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie... ils avaient Dieu qui venait tous les jours les rencontrer, avoir une communion avec Dieu. Et par contre, il y avait dans le jardin un arbre de la connaissance, pour connaître par soi-même, sans être dépendant de Dieu. Et l'histoire nous montre que l'homme et la femme, hein, tous les deux, se sont laissés attrapés par le serpent, par le tentateur, par celui qui arrive à se glisser dans nos relations, dans nos pensées, c'est un peu comme de l'eau, hein, qui s'infiltre en nous et qui provoque un problème qui est de nous séparer de Dieu, nous séparer du Créateur. Et Jésus a dû venir pour régler cette affaire-là. Jésus a dû prendre sur lui tous les péchés de l'humanité. C'est pour cela qu'il est venu sur la croix, pour porter nos péchés. Donc c'est le Logos, la parole incarnée, qui est venu mourir sur la croix. Et à partir de là, l'histoire de l'humanité a basculé. C'est-à-dire que Dieu a donné la possibilité à l'être humain d'être sauvé, d'être racheté de cette malédiction du péché qui est entré dès la Genèse dans le cœur de l'humanité. Le XIIIe siècle a été une bascule dans le christianisme. Et où, pendant 13 siècles, donc du début, les premiers apôtres, hein, jusqu'au XIIIe siècle, il y avait une sorte de recherche de répandre la parole. Donc il y a eu les premiers apôtres, les deux premiers siècles. Ensuite, après, il y a eu Constantin qui a permis un empereur, a permis à la religion de devenir une religion officielle. Ça s'est refermé. Et ensuite, après, il y a eu Clovis. Hein, Clovis en France, c'est pour ça que souvent on parle de Clovis, qui s'est converti au christianisme, et c'était un païen, et qui a permis à ce que l'évangile puisse se répandre en Europe. Mais c'est le XIIIe siècle qui a eu une bascule où les choses ont basculé. C'est avec Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, c'était un prêtre bien connu dans l'Église catholique à ce moment-là. Et il a commencé à introduire de la philosophie dans la théologie. La théologie, c'est la parole de Dieu, on explique la parole. Et ensuite, après, il y a eu la philosophie. La philosophie a toujours été un élément pour l'être humain de trouver des solutions par lui-même. Par lui-même, par une sagesse, par des pratiques qui semblent, enfin qui sont très bonnes hein, d'une certaine manière, ça évite les débordements. Mais du coup, il y a l'esprit du monde qui s'infiltre dans la philosophie. Et c'est au XIIIe siècle, eh bien, ce Thomas d'Aquin, dont j'ai dû mettre une photo, je pense, qui a effectivement introduit, donc c'est un moine qui a introduit la philosophie dans la théologie. Et à partir de là, les choses ont dévié jusqu'à maintenant. Et celui que j'ai présenté ici, c'est Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, c'est un Suisse d'origine qui a vécu aux États-Unis, qui a analysé un petit peu toutes les dérives culturelles. Dérive culture dans l'histoire, dans la philosophie, dans enfin, tout ce qui est enseigné pour connaître le monde dans lequel nous sommes. Et toutes ces dérives qui ont été donc initiées un petit peu au XIIIe siècle par Thomas d'Aquin, qui a permis en fait que la philosophie soit au même niveau que la théologie, eh bien, a amené une déviance où aujourd'hui, eh bien, on est maintenant dans l'athéisme. Donc il y a une déchristianisation de l'Occident. L'Occident était christianisé donc jusqu'au XIIIe par des moines, en particulier les moines en Irlande, etc., qui étaient vraiment profondément chrétiens. Et à partir du XIIIe, eh bien, il y a une déchristianisation de l'Occident. C'est-à-dire que la foi a été sapée, la foi en Jésus-Christ et dans la connaissance de sa parole a été sapée jusqu'au point où aujourd'hui il nous reste un petit résidu que nous sommes. C'est pas parce qu'il y a des chrétiens. Ce qui est important, c'est la foi des chrétiens. Parce que c'est pas le christianisme. Le christianisme a été vidé de sa substance par la philosophie. Et nous avons besoin de remonter la pente. Et donc, l'humanisme a pris la place, l'humanisme spéculatif. C'est-à-dire, on spécule. Hein. On est sûr de rien, mais on affirme. Comme ça, voilà. Donc, il y a tout un tas d'humanistes qui sont venus les uns après les autres depuis le XIIIe siècle et qui maintenant ont apporté les ravages que nous connaissons et dans lequel nous baignons aujourd'hui. Cet humanisme est centré sur soi. Voilà. Là, vous avez une représentation de Léonard de Vinci, hein, qui était un peu le grand enfin, le dernier savant, comme on dit, qui savait tout, hein, de l'époque. Aujourd'hui, il serait dépassé, mais à l'époque, il pouvait tout savoir. Et Léonard de Vinci, c'est un Italien qui a été ramené par François Ier en France, et au XVIe siècle, eh bien, il a fait ce dessin qui montre que l'homme est au centre de l'univers. Vous voyez, c'est un dessin qui montre que l'être humain, par ses proportions, c'est vrai que c'est des proportions idéales entre ces différents éléments, eh bien, c'est dans un cercle et un carré. Le carré, c'est l'homme, et le cercle, c'est la femme. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui est parfait. Et donc, on a cherché une perfection dans l'être humain. C'est la Renaissance. C'est vrai que la Renaissance a apporté, en tout cas en Occident, des très belles choses. Hein. Vous pouvez voir des proportions qui sont formidables hein, dans les différents monuments que vous pouvez visiter. Mais en même temps, ça a amené un problème dans la pensée des êtres humains, c'est que l'homme, il est parfait. Et que, parce qu'en fait, on montre que des, voilà, un être parfait, hein, qui est bien proportionné et tout. Et cet être parfait, eh bien, va faire son chemin tout seul. Et c'est pour ça que nous sommes poussés, même aujourd'hui, en particulier en Occident, vers la recherche de perfection. La recherche de, on va perfectionner. Au point qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez des savants fous, hein, comme Elon Musk ou tout ça, qui vous disent, eh bien, demain, on va habiter sur Mars. Voilà. Donc, ils lancent des projets pharaoniques pour habiter sur Mars, pour habiter ailleurs, etc. Parce qu'en fait, il n'y a plus de limite pour l'être humain. Hein. Il peut voyager au fond de l'univers pour chercher à se répandre sur la Terre. Donc, c'est le début, je dirais, de la fin. Le début de la fin de l'humanité, parce que l'humanité, vous êtes vous et moi, on voit bien qu'on est limité. Hein. Mais là, on montre que l'homme est illimité, que les possibilités sont infinies. Ça a commencé au XVIe siècle par un individualisme, un homme idéal. On a défini un homme idéal. Donc, on est dans la spéculation de l'idéal. Et là, pour aller très vite, hein, on arrive effectivement au transhumanisme. Donc là, c'était l'humanisme. Là, maintenant, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme de Prométhée, hein, Prométhée, qui est celui, le titan qui prenait le feu des dieux et l'amenait sur la terre. Donc c'est la connaissance. Donc maintenant, l'homme veut, par sa connaissance, eh bien, dépasser le Créateur et devenir lui-même le Créateur. Et nous sommes dans cette ère pour transformer l'humain en Dieu. Voilà. Ça a été d'ailleurs le thème principal des Jeux Olympiques, pour ceux qui ont regardé les cérémonies d'ouverture et de fermeture, qui était totalement dédié à ce transhumanisme. Donc le XXIe siècle, eh bien, veut transformer l'être humain en lui mettant tout un tas d'apports, hein, des puces partout, etc., pour augmenter ses pouvoirs, ses connaissances, par l'intelligence humaine. Donc le XXe siècle, c'est le siècle du transhumanisme. L'homme, l'homo Deus, l'homme-dieu. C'est bien sûr, c'est des gens fous, mais c'est des gens fous qui s'appellent Elon Musk ou autres, hein, qui ont des milliards et des milliards d'argent à dépenser là-dedans. Et ce qui résulte de ça, c'est la PMA, la GPA. C'est-à-dire qu'on veut transformer l'être humain dans le noyau lui-même de la création. On veut recréer un être, un transgenre. Voyez-vous, donc toute la question du genre humain est également à disposition de la science pour le transformer. Et c'est pour ça que vous avez vu ce qui s'est passé dans la présentation de la cérémonie où les transgenres étaient à l'honneur devant le monde entier qui a pu les observer. Ça, c'est juste une vue pour montrer qu'on va vers la fin et le retour de Jésus. Pour nous, c'est une délivrance qui vient. Hein. Mais pour l'homme, c'est pas une délivrance. Hein. C'est plutôt le cauchemar qui est en train d'arriver, en tout cas pour beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est pour ça que ça nous donne un espoir d'annoncer l'Évangile. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Les gens ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin parce qu'on les entraîne dans des choses qui vont leur donner le cauchemar à tous les niveaux. Et nous avons besoin d'apporter l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut relever la tête, les amis. Il faut relever la tête parce que Jésus vient bientôt. Il y a eu un jugement sur Babel et il y aura un jugement sur ce que les hommes sont en train de faire actuellement, parce qu'ils dénaturent complètement l'être humain, ils le transforment, ils veulent le diviniser, ils veulent lui donner des pouvoirs exceptionnels, alors qu'en fait on est toujours mortel, et que ces histoires scientifiques ne résolvent pas du tout l'immortalité, bien qu'ils en parlent également. Alors tout ça pour vous parler du psaume 53. Le psaume 53 que je vais prendre ce matin, c'est un psaume qui nous montre, cantique de David, qui nous montre combien le Seigneur est bon et il veut bien, il veut condamner hein, cette folie. Au chef de chœur sur la flûte, cantique de David. Le fou, ou l'insensé, alors on a différentes traductions, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Donc vous voyez, la corruption, c'est dans cette corruption généralisée que nous vivons en ce moment, où voilà, l'homme déclare qu'il n'y a pas de Dieu, donc le Dieu c'est l'homme, et donc c'est le surhomme, c'est l'homme surhumain qui va être celui qui va diriger le monde entier. Du haut du ciel, Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble et se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait de raison d'avoir peur. Dieu dispersera les eaux de ceux qui t'assiègent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand Dieu rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Je prends le psaume 14 qui, en fait, est presque, à quelques paroles près, la même chose. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont deux psaumes qui sont des psaumes de sagesse. Des psaumes qui, justement, évitent de rentrer dans un délire tel que nous le voyons aujourd'hui. Alors le psaume 14, au chef du cœur de David, le fou, donc en hébreu c'est Nabal, sot, imbécile, insensé, bouffon, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. Et vous, ça, c'est important de le noter. C'est que quand on veut être autonome, comme je viens de décrire ce transhumanisme hein, qui veut trouver Dieu dans la science, dans les améliorations de l'être humain, eh bien, ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Et ça, c'est important de voir que dans tout ce chaos qui est en train de s'installer, qui est en cours, hein, pour transformer l'être humain en un monstre, que l'homme ne pourra plus maîtriser, eh bien, il y a les justes. Les justes, c'est nous. C'est ceux qui ont accepté Jésus. C'est ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous sommes justes par la vertu de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, Dieu est au milieu des justes. Donc, mes amis, ça c'est la bonne nouvelle hein, dans toute cette présentation chaotique de l'humanité actuelle. Eh bien, Dieu est au milieu des justes. Amen. Dis-le à ton voisin, Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Amen, voilà. À condition que nous soyons justes. Or, c'est quoi la justice? Est-ce que c'est, elle est en nous, la justice? Hein, Mila? Elle est en nous, la justice? Elle est où, la justice? Elle est en Jésus. C'est Jésus qui a acquis la justice pour nous, pour chacun de nous. Et il l'a fait à la croix, c'est pour ça que j'aime bien cette croix qu'on a fait ici, dans ce lieu, qui n'existait pas avant, pour nous rappeler toujours que c'est la croix de Jésus qui est au centre de notre foi. Si cette croix disparaît, notre foi n'a plus aucune valeur. Vous bafouez l'espoir du malheureux ? Sachez que l'Éternel est son refuge. Vous savez, bien sûr, par rapport à toutes ces tentatives de transhumanisme, donc de dépasser l'humain par des choses extravagantes, extraordinaires, aller sur Mars, voilà, ça c'est le rêve d'Elon Musk très rapidement, d'aller sur Mars pour découvrir quoi. Bref, c'est de la folie, mais dans toute cette folie, bien, l'Éternel est au milieu des justes, que nous sommes, tout simple, parce que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le sang de la croix. Amen. Et ce sang de la croix, eh bien, il est vrai dans cette période, comme il y a 2000 ans, il est toujours valable. Amen. Et c'est pour cela que nous devons rentrer dans cette foi en Jésus-Christ. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël ? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Là, c'est déjà une direction du retour du Seigneur. Moi, je me suis converti en 78, quand il y a eu... Quand il y a eu cette guerre que Israël a gagnée sur son ennemi, guerre des six jours, hein, le septième jour, ils se sont reposés comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. En six jours, ils ont traité le problème qui était impossible à lui-même. C'est miracle sur miracle sur miracle qu'ils ont gagné cela. Parce que Dieu a voulu ramener Israël avant son retour. Et ça, c'est un signe dans l'histoire que Dieu est à l'œuvre, que Dieu tient l'histoire dans sa main, que Dieu est sur le point de revenir et nous voulons nous réjouir. Il rétablira son peuple et c'est ce qu'il a fait en Israël. Alors, ces deux psaumes donc, montrent qu'il y a le fou, hein, l'insensé, qui dit « il n'y a pas de Dieu », c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le psaume. C'est le fou qui est dans sa folie du transhumanisme, comme Elon Musk entre autres, mais il n'y a pas que lui, hein, qui veut transformer, mettre des puces partout dans l'être humain, etc., pour augmenter son pouvoir, pour augmenter ses capacités. Tout ça pour quoi faire? Alors qu'en fait, les guerres, on ne les a toujours pas résolues, on n'a toujours pas trouvé de quoi harmoniser les peuples. Et de l'autre côté, le sage et le juste qui est dans la prière. Le juste qui s'adresse à son Dieu, qui s'adresse à celui qui est au-dessus de toutes les contingences de cette création qui a été détériorée par toutes sortes de choses et non l'être humain. Eh bien, vous avez le sage, le juste, et le fou et l'insensé. Et ces deux éléments vont aller de pire en pire. Et y compris les chrétiens qui se laisseront entraîner par la folie de l'insensé. Et c'est là que je voudrais vous mettre en garde que ça ne nous arrive pas. Je rappelle juste un élément sur Lucifer. Hein. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Hein. Il porte effectivement une lumière, mais c'est une lumière de ténèbres. Et Lucifer, qui était l'ange le plus extraordinaire que Dieu avait fait, eh bien, ça lui a pris de vouloir prendre la place de Dieu. Et il a été précipité dans le premier et le deuxième ciel. Et de cette chute, eh bien, il a cherché à séduire les hommes, à les entraîner avec lui dans sa rébellion. Et c'est ça le problème de l'être humain, la liberté que Dieu donne à l'être humain. Dans le jardin d'Éden, il a dit, voilà, tu as deux arbres, tu es libre. Parce que s'il n'y avait pas cette liberté, eh bien, nous serions esclaves de Dieu, nous serions esclaves, nous ne pourrions pas faire des choix. Alors que Dieu veut que nous fassions des choix, mais des choix pour venir à Dieu de manière libre, de manière déterminée. Et dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12, et dans Ézéchiel, verset 28 et 12, nous voyons Lucifer, hein, Lucifer, donc l'être de lumière, hein, effectivement, qui a gardé cette séduction par rapport à l'être humain et qui a entraîné les hommes et les femmes à sa suite. Et aujourd'hui, nous sommes eh bien, conditionnés par ces tentations encore aujourd'hui. Mais nous avons un Messie. Nous avons Jésus qui est venu, qui, lui, a eu la victoire sur cette séduction. Il a été tenté, mais à jamais il n'a succombé à la tentation. Et c'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui nous donne sa vie de victoire, en esprit bien sûr, mais dans notre âme, nous sommes toujours pécheurs. Et c'est là toute la difficulté de l'être que nous sommes. Nous sommes en partie pécheurs, donc par l'âme, et en partie vainqueur par l'esprit. Et il faut que l'esprit domine sur l'âme. Et c'est toute la difficulté du croyant, du chrétien, qui aujourd'hui est mis à mal. Parce que la séduction devient de plus en plus grande et les systèmes qui nous dirigent deviennent de moins en moins libres de faire ce que nous voulons, que nous sommes entraînés dans cette chute. Il y a un livre dont je vous ai déjà parlé, « Dieu, la science, l'épreuve ». C'est un livre de, je ne sais pas combien, 500 pages, enfin un gros livre, qui a été écrit récemment donc par deux personnes, Olivier Bonassis et puis son compère, qui ont écrit ce livre pour montrer qu'aujourd'hui, on peut démontrer que Dieu existe. C'est-à-dire, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a pu montrer que c'est la parole de Dieu, que tout ce qui est dans la Bible, eh bien, démontre la science. C'est-à-dire que la science qui observe la création, eh bien, cette observation, maintenant, elle est prouvée par la Bible, que, effectivement, c'est le seul livre qui explique réellement les données scientifiques. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, hein. Moi-même qui suis scientifique, j'ai passé un peu là-dessus pendant pas mal d'années, et là je l'ai redécouvert au travers de ce livre, où la science actuelle fait que l'homme n'a plus aucune possibilité de dire qu'il n'est pas au courant. C'est-à-dire quand Dieu va juger l'humanité, et ça va venir bientôt, rapidement, eh bien, quand les hommes passeront devant le tribunal de Dieu, ils ne pourront pas dire qui ne savait pas qu'il y a un créateur et que ce créateur s'est manifesté. Et qu'aujourd'hui, la science détient la preuve que Dieu existe. Dans toute la Genèse et dans tous les livres qui ont suivi, eh bien, prouve que la science eh bien, a donné les preuves de l'existence de Dieu. Nous sommes dans ce siècle où Dieu a permis que l'homme découvre, hein, par l'atome, par tout ce qui a pu être découvert au siècle dernier. Aujourd'hui, Ce livre montre que, eh bien, les hommes ne sont plus excusables. Ils ne sont plus excusables. Et en particulier les savants. La plupart des savants sont humbles devant ces connaissances, hein, mais ils ne vont pas le crier sur les toits. Mais n'empêche qu'ils savent qu'effectivement, il y a un créateur et que tous les éléments de la création, eh bien, ont été définis par la Bible. Le transhumanisme, qui aujourd'hui est en train de se lever, hein, c'est pour devenir des super-héros, hein, des humains augmentés. Hein, et d'ailleurs, à la clôture des Jeux Olympiques, il y a eu Tom Cruise qui est descendu du haut du stade, le Stade de France, qui est descendu, hein, pour montrer. Alors, il n'était pas content parce que les Français ont été un peu trop sécures, quoi. Donc ils ont mis des grosses cordes. Ils ne voulaient pas que ça se voit, quoi, qu'il descend sur une corde. Ils voulaient que les gens aient l'impression qu'il descend comme un ange, quoi. Hein, voilà. Mais c'était fait pour ça, parce que Tom Cruise, c'est celui qui justement veut prouver qu'on est dans le transhumanisme. Que, en fait, l'homme, il n'y a plus de limite maintenant, et qu'il peut descendre comme ça de ce stade sans problème, et amener ce phare, cette torche à Los Angeles, où ils vont refaire dans 4 ans la suite de ce qui s'est passé à Paris. J'ai fait une rencontre fin août là-dessus, hein, donc toute une journée pour ceux qui ont suivi, pour vous montrer en quoi ces choses justement sont pertinentes aujourd'hui dans notre civilisation, et que ce transhumanisme maintenant est donné devant tout le monde. Avant, c'était réservé à certains initiés. Aujourd'hui, maintenant, c'est la planète entière qui a vu ce que l'homme pense, qu'il est un dieu et qu'il peut faire des choses impossibles, alors que bon, descendre du toit d'un stade, c'est pas encore. Hein. Mais voilà, ça impressionne les foules et ils ont l'impression effectivement que l'homme est devenu un dieu. Alors que le christianisme biblique, eh bien, c'est un christianisme où nous avons besoin de la prière. La prière, parce que nous sommes dépendants de Dieu et nous voulons rester dépendants de Dieu. Nous avons une mission qui est de partager l'Évangile, et cette mission, eh bien, c'est à nous de la porter dans la simplicité. Et c'est donc ce trio, je dirais, de ces trois éléments qui sont représentés par notre logo PEA, où nous voulons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Cet amour, eh bien, va être un élément d'évangélisation. Et enfin, une vision eschatologique, c'est-à-dire c'est une vision qui englobe ce qui va venir. Ce qui va venir, c'est le retour de Jésus. Le retour du Seigneur qui va nous délivrer de ces oppressions qui sont en train d'agir dans notre humanité. Et c'est la vision du phare. Donc cette vision du phare que Dieu nous a donnée ici sur Élisabethville, c'est une vision où nous voulons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et qui de plus en plus vont être pris dans les ténèbres. Nous voulons les éclairer par le Seigneur. J'ai fait un webinaire, hein, sur cette réflexion qui est porté par des jeunes, hein, de l'école biblique qui sortent Tout pour sa gloire. Il s'appelle le site Tout pour sa gloire. Memento Mori, c'est un motto qui est dit: vivez en prenant la fin comme point de départ. Souvent, on a un point de départ et on va vers un point d'arrivée. Hein. Eh bien, eux, ils proposent, et je suis d'accord avec eux, de prendre le point de départ. Le point d'arrivée, pardon. Le point d'arrivée, c'est d'une part le retour de Jésus, c'est le point d'arrivée, c'est notre espérance de délivrance qui nous attend. Mais en tant qu'Église, c'est aussi d'être un phare. Et ce phare, nous le prenons comme une réalité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui allons provoquer le phare sur Élisabethville, sur cette région. Mais il est déjà là. Il est déjà là. Si nous marchons par la foi, ce phare va éclairer les êtres humains qui sont là. Et nous marcherons, nous entrerons dans la marche avec le Seigneur. Nous n'allons pas nous épuiser, si vous voulez. Nous allons faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous serons dans le repos. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, mais ça veut dire que nous entrons dans un temps préparé par le Seigneur, où nous allons pouvoir parler du Seigneur. C'est pas notre problème si c'est accepté, si c'est pas accepté. Mais notre problème, c'est d'être vrai dans ce que nous allons dire, dans ce que nous allons vivre, dans ce que nous allons vivre avec le Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur va être glorifié au travers de nous. Et c'est ce que nous voulons cette année. Cette année qui commence, nous voulons la placer sous le regard du Seigneur. Nous voulons le laisser nous guider, le laisser nous diriger. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons faire des exploits. Amen. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui avez vos activités, qui avez vos affaires, je veux dire, votre travail, vos projets cette année, eh bien, on va les placer sous le regard du Seigneur. Et dans l'humilité, avancer avec foi et avec confiance. Et c'est cette confiance que nous aurons dans le Seigneur qui va nous préserver de toutes ces choses qui, autour de nous, sont remplies d'orgueil, remplies de toutes sortes de choses qui risquent de nous étouffer si nous y attachons. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous sommes démunis devant, Seigneur, ces choses qui nous dépassent, qui sont autour de nous. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui tiens toutes choses dans ta main. Que c'est toi, Seigneur, qui es l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. Seigneur, tu tiens ce monde dans ta main, tu tiens l'histoire dans ta main, tu tiens notre histoire dans ta main, tu tiens l'histoire de cette Église dans ta main. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Te dire merci parce que nous croyons que, Seigneur, tu vas nous donner cette victoire qui est déjà acquise, Seigneur, où nous pourrons être des témoins de ta résurrection, de ton amour. Seigneur, conduis-nous, garde-nous, Seigneur, dans ta main, dans ta fidélité, Seigneur, à ta parole, et que toute la louange ne nous revienne qu'à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen.